Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 22. Je reçois Cyrielle, diplômée d'HEC, qui s'est lancée dans la transition écologique en s'attaquant à la question des déchets alimentaires et du compostage avec les alchimistes. Elle nous raconte sa prise de conscience, d'abord personnelle et déjà en lien avec l'alimentation, puis les étapes de son changement avec son compagnon, entre voyage et engagement. Bonne écoute! Bonjour Cyrielle.
Bonjour JP.
Cyrielle, tu as 32 ans et tu es diplômée d'HEC. Il y a presque 3 ans, tu as rejoint les Alchimistes, une société qui valorise les déchets organiques des professionnels et des particuliers grâce au compostage. Mais avant ça, tu avais débuté ta carrière chez Groupon, puis passé un long moment chez Blablacar. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours ?
Avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir et de me donner la parole. Toujours chouette de pouvoir discuter. Donc effectivement, si je prends les choses dans l'ordre inverse, donc ce qui m'occupe actuellement, c'est les alchimistes. Donc on est une jeune structure de l'ESS qui collecte et composte les déchets alimentaires en zone urbaine et en circuit court. Donc concrètement, on part le matin collecter les déchets alimentaires de nos clients, des restaurants, des supermarchés, des écoles. On les amène sur nos sites de compostage qui sont en circuit court, et à faible distance de là où les déchets sont produits, donc dans la ville, et on fabrique du compost qu'on revend ensuite aux particuliers et aux professionnels de l'agriculture ou de l'agriculture urbaine. Et donc j'ai rejoint ce projet-là et mes deux associés Alex et Kenzo il y a un peu plus de 2 ans, et donc je m'occupe aujourd'hui du développement de cette structure, ce qui est très excitant, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Avant les alchimistes, je suis partie en voyage pendant 6 mois avec mon compagnon. On a fait du woofing dans différentes zones du monde avec pour objectif de déterminer la manière dont on avait envie de vivre ensuite. Donc un peu une petite remise en question liée à une prise de conscience sur les enjeux écologiques. Et donc on en a profité pour un peu dézoomer, se ressourcer et un peu faire le point sur ce qui était important pour nous en s'extrayant de notre mode de vie d'avant, puisque avant ça, du coup, on vivait à Paris. Depuis, on a déménagé, on vit à Nantes, on vivait à Paris et on travaillait tous les deux, Charles, mon compagnon et moi, dans la tech. Donc pour ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant 6 ans au sein de Blablacar, où je me suis occupée de ce qu'on appelait la croissance, qui est un bien grand et pompeux mot pour dire le développement. Donc en gros, définir là où on a envie d'aller, quel est le plan de développement, chiffrer, contribuer à trouver son financement, donc aller chercher du financement auprès d'investisseurs privés notamment, et ensuite dérouler ce plan, donc organiser notre structure, la boîte Blablacar, pour qu'on puisse exécuter ce qu'on s'est fixé comme objectif. Ça a été une aventure incroyable, assez dense, assez intense. Et avant ça, effectivement, j'ai travaillé chez Groupon pendant 2 ans, qui m'a vachement donné le goût pour les startups, l'accélération et tout. En termes de valeur, j'avais quand même quelques petits trucs à redire. Et donc, c'est ça qui m'a amené plutôt à m'orienter vers une boîte qui avait du sens déjà à l'époque, quand j'ai rejoint Blablacar en 2012. Et donc, chez Groupon, j'avais déjà commencé par apprendre ce que c'était qu'une boîte qui grandit vite, le milieu de la tech, l'univers du web, de la data, etc. Et des sales aussi. Donc c'était une première vraie expérience. Avant ça, j'avais fait des stages en finance et conseil, mais je considère que c'est quand j'ai commencé à travailler chez Groupon que j'ai commencé à prendre mes vraies décisions, ou en tout cas à sentir que j'avais trouvé quelque chose qui me correspondait bien. Et effectivement, je suis diplômée d'HEC depuis bientôt 10 ans.
Merci pour ce petit récapitulatif de ton parcours. Je te propose qu'on saute directement sur le sujet du changement. Alors, je ne sais pas comment est-ce que tu veux l'aborder exactement.
Si c'était déjà quelque chose que tu avais en tête pendant tes études ou qui est né un petit peu après chez Groupon, chez Blablacar, mais la question de voilà, t'engager pour autre chose, enfin dans l'économie sociale et solidaire, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé en fait à t'engager avec les alchimistes aujourd'hui?
Tout à fait. Je dirais qu'il y a eu plusieurs moments. Ça n'a pas été linéaire. Enfin, il n'y a pas eu un gros moment de décrochage, mais je pense qu'il y a eu deux moments particuliers dans ma vie où j'ai décidé de prendre un peu les choses en main, ma trajectoire en main, et du coup d'aller vers des projets porteurs de sens. Le premier, c'est à l'issue de mon expérience chez Groupon, où je me suis orientée vers Blablacar. Et le deuxième, c'est à l'issue de ma longue pause de plusieurs mois à la suite de Blablacar, comment je me suis orientée plutôt vers les enjeux de transition alimentaire, de régénération des sols et donc de compostage des déchets alimentaires. Et je parle souvent de ces deux... Enfin, je parle souvent. J'aimais dire qu'il y a eu ces deux moments-là parce que ça n'a pas été tout à fait le même type de réflexion. Donc la première fois, quand j'avais travaillé pendant 2 ans chez Groupon, je m'étais lancée dans une petite aventure entrepreneuriale qui a vraiment pas trop fonctionné, qui a pas duré très longtemps, mais qui m'a un peu fait réfléchir sur ce qui était important pour moi et sur ce à quoi j'avais envie de contribuer. Je me suis rendu compte, mais c'était très intuitif, je l'avais pas trop intellectualisé à l'époque. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin assez fondamental de contribuer à une cause qui me semblait évidente. Je ne vais pas dire porteuse de sens, parce que ce n'était pas à l'époque le terme qui me venait. C'était vraiment, est-ce que le projet pour lequel je vais travailler, c'est un projet qui est une évidence et qui doit exister et qui va dans le bon sens par rapport au monde idéal que j'imagine. Et du coup, à l'époque, quand je suis tombée sur cette petite boîte qui s'appelait covoiturage.fr à l'époque, qui avait 30 employés et quelques centaines de milliers d'utilisateurs déjà en France, que j'avais déjà utilisé ce service-là. Ça a été un peu un gros coup de cœur parce que c'était cette forme d'évidence. C'était de se dire que partager les places libres qui sont dans des voitures et qui voyagent à vide, c'était une évidence que ça devait exister, ce service-là. Il y avait un côté un peu magique dans le fait de tout ce côté place de marché, donc faire se rencontrer des passagers et des conducteurs et que ça matche pour qu'ils puissent voyager ensemble. Il y avait un côté assez fou dans le fait que ça puisse fonctionner. Et donc vraiment à ce moment-là, je me suis dit bon voilà, c'est une évidence, il faut que ça existe. Et en plus de ça, les autres critères qui étaient importants pour moi, c'était de travailler avec des gens qui m'inspiraient et qui étaient smart et ambitieux, et aussi de pouvoir mettre à profit les quelques trucs que soit je savais faire, soit j'aimais faire. J'étais quand même très jeune, donc j'avais pas beaucoup de prétention, juste beaucoup d'énergie. Et du coup, ce que j'aimais faire et ce que je voulais travailler, c'était un peu processer des choses qui marchent à petite échelle pour les faire grandir et avoir le nez un peu dans les chiffres pour pouvoir faire des analyses qui permettent de prendre des décisions éclairées sur où on doit aller pour la suite. Et donc, c'est avec un peu ces trois critères-là en tête, l'évidence, les gens et assez large sur le métier, mais que ça me parle, que je me suis dit bon bah je vais me mettre en quête d'un projet qui va bien, et Blablacar est apparu un peu comme une évidence. Et à ce moment-là, ça a été un choix hyper intuitif, quoi. Je suis tombée sur cette jeune boîte qui venait de lever un petit peu d'argent, donc qui sortait tout juste des radars, et du coup j'ai postulé sans fiche de poste. On s'est vu 2-3 fois avec les fondateurs et quelques collègues, et puis ensuite ça a démarré toujours sans fiche de poste, de manière hyper organique, et c'était assez chouette de pouvoir commencer comme ça. Et donc là, je dirais qu'à ce moment-là, il y avait quand même un petit décalage avec peut-être un peu mon entourage et puis la trajectoire un peu classique qu'on peut imaginer pour les sorties d'école de commerce. C'est que Bah, ça faisait un peu un truc de hippie, quoi. Le covoiturage, à l'époque, c'était vraiment pas aussi démocratisé que ça l'est aujourd'hui. Ça paraissait pas forcément être une vraie boîte, que ce soit mes potes ou ma famille. Je pense qu'ils regardaient tout ça d'un œil un peu dubitatif en se disant quand est-ce qu'elle va prendre un vrai travail. Et donc, déjà, j'avais senti un peu ce petit décalage et le sentiment que c'était quand même une forme d'engagement, même s'il y a des formes d'engagement beaucoup plus poussées, mais une forme d'engagement d'aller vers ce truc porteur de sens qui me semblait une évidence, mais qui n'était pas forcément le cas pour tous. Donc, voilà, ça a été un premier moment assez marquant.
Ah oui, c'est marrant de se dire qu'à l'époque, BlaBlaCar, c'était effectivement peut-être pas le projet qu'on connaît aujourd'hui, et que c'était déjà un choix marqué par rapport à ce que pouvaient faire tes camarades de promo ou les gens autour de toi.
Ouais, c'était un peu à l'époque, c'était un peu le début de. Le début, il y a eu plusieurs phases en France, mais c'était quand même le début de la vraie grosse phase des startups en France. Il n'y avait pas du tout encore ces grosses levées de fonds. C'était rare, en fait, de voir du financement comme ça de startups de plusieurs millions, voire dizaines, voire centaines de millions d'euros. C'était des trucs qui n'existaient vraiment pas ou qui n'étaient pas du tout médiatisés à l'époque. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était que c'était vraiment l'époque de ce qu'on appelait la sharing economy, dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais c'était le moment où Airbnb, en France, il y avait une asso qui s'appelle toujours WeShare. Donc pas mal un écosystème comme ça sur ce qu'on appelait l'économie du partage, l'économie collaborative. Et donc c'était un peu à la mode, mais naissant, je dirais, à cette période-là, parce que on n'avait pas encore ces réflexes-là à grande échelle, quoi. Comme souvent, c'est des thématiques qui sont portées depuis des dizaines d'années par des militants convaincus dans un domaine associatif. Donc, c'est des choses qui ont toujours existé, le stop, l'entraide locale, etc. Et puis, il y a un moment où le grand public s'en empare, souvent poussé par quelques entrepreneurs et par une tendance de fond, et en fait un service un peu plus mainstream qui, du coup, est disponible à tous et qui devient un réflexe. Et donc c'était un peu le début de ça pour ce qui concerne le stop qui est devenu du coup le covoiturage et de manière beaucoup plus organisée et démocratisée.
Et du coup, tu as passé combien de temps chez BlaBlaCar et qu'est-ce qui a fait que tu en es partie?
Donc j'ai passé presque 6 ans chez BlaBlaCar. Je me suis du coup occupée de ce qu'on appelait la croissance. J'ai vraiment beaucoup grandi avec la boîte. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai été très mentorée par notamment une personne un des trois fondateurs. Et puis, c'était un environnement humain vraiment assez hors du commun. Et donc, j'en ai vraiment bien profité. Ça a été aussi hyper intense parce que je mettais toute mon âme et toute mon énergie dedans avec pas énormément de recul, comme c'était mon moment. Même si j'avais un petit peu bossé avant, c'était ma première vraie expérience et j'étais vraiment passionnée par le sujet. Et donc, j'avais pas forcément toujours le recul émotionnel pour me dire c'est pas si grave, c'est pas la fin des haricots, si tel projet n'aboutit pas et tout. Donc, voilà, humainement, je me donnais à fond. On bossait beaucoup. C'était un peu le work hard, play hard. Et je voyageais beaucoup et tout. Et puis, du coup, au bout de ces quelques années, on s'est dit avec mon compagnon qu'on avait envie de prendre une pause de quelques mois. Donc, on a fixé une date assez longtemps en avance. On a fixé l'objectif de partir pendant 6 mois et on a fixé cette date 1 an et demi en avance. Et donc, au moment où approchait ce voyage, la question, c'était est-ce que je reviens ensuite chez BlaBlaCar ou est-ce que je pars et je vais faire autre chose. Et en fait, ça a coïncidé, cette période-là, avec le moment où j'ai commencé à prendre vraiment conscience de l'impact de mon mode de vie sur l'environnement et vraiment prendre conscience un peu des grandes composantes des enjeux écologiques. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est peut-être le moment de sauter le pas et de profiter de ces 6 mois pour dézoomer, retrouver un peu de curiosité, relire des choses qui ne sont pas purement dans ce secteur d'activité que j'ai creusé à fond pendant 6 ans et me retrouver un peu sur ce dont j'avais envie. Et du coup, j'ai décidé de un peu lâcher la barre et ça tombait bien parce qu'à ce moment-là, dans la boîte, c'était une nouvelle phase aussi. Donc, c'était bien d'avoir de l'énergie un peu fraîche pour tout le monde. Donc, du coup, je suis partie au moment de partir en voyage pour 6 mois.
Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce voyage? Tu nous as un petit peu parlé du woofing, mais vous êtes allé où? Vous avez fait quoi? Il y avait une quête particulière sur ce voyage ?
Ouais, c'est intéressant cette question parce que en fait, quand on a prévu ce voyage, donc un an et demi en avance, on savait pas encore où on allait aller, mais vraiment, c'était, on avait en tête purement loisir, quoi. Vraiment se faire plaisir, voyager, rencontrer des gens, faire du sport, voir des paysages hors du commun, etc. Et en fait, quand la date a approché, ça, comme je te disais à l'instant, coïncidé avec une prise de conscience écologique. Et à ce moment-là, ça faisait peut-être 3 à 4 mois qu'on avait pris nos billets d'avion et donc on allait faire ce qu'on appelle communément le tour du monde, pas au sens où on a été partout, mais au sens où on a littéralement fait le tour de la planète, puisqu'on a été en Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie, Argentine, Brésil, et qu'on est revenu par l'autre côté en France. Et du coup, quand on commence à calculer son empreinte carbone, c'est déjà qu'elle était catastrophique, mon empreinte carbone avant, je m'en étais pas rendu compte, mais alors là, en ajoutant ce voyage-là, c'était un peu la cata. Donc on a eu une petite phase où on s'est dit, est-ce qu'on annule ce voyage ? Les billets n'étaient pas annulables, mais c'est pas vraiment ça le facteur de décision. C'est que la réalité, c'est que moi, j'étais pas du tout prête à faire une croix sur ça. J'avais pas encore suffisamment fait mon chemin pour me dire... je sacrifie ces 6 mois, j'en ai rêvé depuis trop longtemps, donc on a décidé de quand même partir, mais on s'est dit, donnant une orientation à ce voyage qui se voulait purement loisir, et allons plutôt en profiter pour rencontrer des gens qui ont fait des choix un peu osés de mode de vie, et cherchons un peu l'inspiration pour la suite. Et donc ça, c'était d'un point de vue perso, donc ça nous a amené à aller vivre chez des gens qui avaient vécu en communauté, se rapprocher des thématiques de la permaculture, de la construction, de la construction autonome, ce genre de thématiques. Et en parallèle de ça, ben, pour moi, c'était aussi une opportunité en or pour lire plein de trucs. Enfin, j'ai vraiment eu cette sensation de redécouvrir, de redevenir curieuse, parce que je suis de nature très organisée et je priorise beaucoup. Et donc, en étant en poste pendant 6 ans chez BlaBlaCar à dérouler le plan, j'étais complètement dans mon petit sillon, enfin, qui était un beau sillon, hein, aucun regret, mais j'avais un peu fait obstruction de tout ce qui se passait autour de moi, et là c'était comme une espèce de bouffée d'air frais géniale de pouvoir relire plein de choses, comme c'était sur des thématiques assez tristes, enfin assez effarantes sur la transition, sur la trajectoire de nos sociétés et le besoin de prendre des décisions radicales si on voulait on voulait atteindre les objectifs des accords de Paris, ce genre de choses. C'était pas tous les jours facile de lire tout ça, mais comme on était dans un cadre assez exceptionnel, parce qu'on voyageait pas mal et qu'on était dans des lieux hors du commun avec des gens intéressants, la pilule est très bien passée. Et puis surtout, ce qui était génial pour moi, je me suis rendu compte que j'étais quand même assez sensible au regard des autres, beaucoup plus que ce que je m'avouais, et je pense que si j'avais pas eu ce voyage et si je m'étais pas extrait pendant 6 mois de mon quotidien parisien, j'aurais eu beaucoup de mal à vraiment faire le pas et à ne pas avoir d'objectif en fait pendant 6 mois. J'ai dézoomé, j'ai erré un peu intellectuellement et on a un peu erré aussi géographiquement et ça m'a fait un bien fou et ça m'a donné, bizarrement, ça m'a donné vachement d'ancrage, quoi. Et de confiance dans le fait qu'il fallait sauter le pas, et puis on était à deux aussi, donc ça c'était assez sympa pour avancer dans la projection sur le futur.
Et alors, avant ton voyage, tu avais déjà dit à BlaBlaCar en fait que tu ne reviendrais pas, tu avais déjà pris cette décision ?
Oui, j'avais pris la décision avant de partir, et ça a été déterminant. Y a les gens qui partent en voyage longtemps, on se pose souvent cette question de est-ce que je lâche mon job ou est-ce que je suis contente de le retrouver après, et il y a un peu deux écoles là-dessus. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir cette sécurité au retour, et d'autres pour qui c'est plutôt important de lâcher prise. Moi, je faisais partie de la deuxième catégorie. Je pense pas qu'il y ait de bonnes solutions, hein, c'est juste personnel. En ce qui me concerne, c'était vraiment super pour moi de plus avoir d'attachement à l'expérience d'avant.
Et tu n'avais pas peur, du coup, enfin, sachant que tu sais pas ce que tu allais faire par la suite, je ne sais pas si tu avais un petit matelas de sécurité ou comment ça se passait. Tu ne disais pas, bon, après 6 mois, comment ça se passe, quoi ?
Financièrement, notamment, et tout. Si, y avait deux enjeux. Financièrement, déjà, j'étais assez chanceuse parce que Grâce à mon expérience chez Blablacar, je m'étais effectivement constitué un matelas largement suffisant pour pouvoir et faire ce voyage et avoir du temps au retour. En plus, on s'est mis d'accord pour que je puisse déclencher le chômage à mon retour de voyage. Donc, du coup, j'avais un filet de sécurité, c'était net. Et puis, comme en plus, on avait pas mal changé de mode de vie en termes de consommation et tout, j'étais pas super inquiète du fait qu'en rentrant, j'allais pouvoir me contenter de moins. Donc ça, de ce point de vue-là, j'ai eu pas mal de chance. Et après, comme ton podcast s'adresse pas mal à des alumni, je pense qu'on peut dire que globalement, la plupart des gens qui sortent de nos types d'études, de ce genre de milieu, ont souvent un peu cette opportunité-là. En tout cas, tant qu'ils se sont pas mis, tant qu'on s'est pas mis dans un mode de vie qui dépend complètement de son salaire, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas pris un prêt vraiment significatif pour son logement et des enfants à charge qui ont des habitudes de loisirs ou autres, tant qu'on n'a pas fait ces choix vraiment déterminants, on a le luxe, je pense, et la liberté de pouvoir prendre quelques mois de pause. Financièrement, c'est souvent le cas. Et puis par ailleurs, quand on peut avoir le chômage, c'est je trouve une super. La France est super, super pour ça. Ça permet de donner un peu d'air. En ce qui me concerne, je ne culpabilisais vraiment pas d'être au chômage en rentrant. J'entends bien pas en voyage, mais en rentrant. Parce que je me suis dit, si je prends ce temps de la réflexion pour trouver la bonne aventure pour moi ensuite, comme j'avais vraiment très envie d'aller vers une aventure entrepreneuriale, bah, j'étais assez convaincue que j'allais créer de l'emploi ensuite. Et donc, ça me semblait important de pouvoir prendre ces 3-4 mois et de ne pas devoir rusher et trouver tout de suite une alternative. Enfin, de trouver tout de suite un nouveau boulot. Parce qu'au moins, j'allais pouvoir m'épanouir dans les 10 prochaines années si je trouvais la bonne chaussure à mon pied. Donc, financièrement, pas trop d'inquiétude. Et ensuite, en revanche, l'autre truc qui, pour le coup, me terrifiait, j'étais quand même un peu vidée de mon énergie à l'issue de cette aventure chez Blablacar qui était hyper palpitante. C'était, est-ce que je vais retrouver la niaque, quoi ? Est-ce que je vais retrouver l'envie de me relancer dans un projet pour une bonne période avec des gens nouveaux et puis qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver ? Qu'est-ce qui m'attend ? Est-ce que ça va être assez bien ? Est-ce que l'image que je me suis construite... on va encore me percevoir positivement. Enfin, je me montais un peu la tête sur la perception que les autres pourraient avoir de moi et sur est-ce que j'allais y arriver, quoi. Est-ce que j'allais arriver à retrouver de l'énergie. Et c'était surtout ça, du coup.
Et c'est vrai que c'est une question que j'avais en t'écoutant, parce que enfin, tu avais quand même un sacré bon poste chez Blablacar. Je pense qu'à cette époque-là, ça commençait à être de plus en plus connu et je pense que tu avais une certaine forme de statut. Ça n'a pas été difficile de lâcher ça. Déjà avec ton compagnon, ta famille, tes amis, leur regard, comment est-ce que ça s'est passé ? Surtout pour sauter dans un, entre guillemets, un vide absolu, à savoir tu savais pas où t'allais.
Ouais, ça c'était, pour moi c'était le plus dur. Et en revanche, ce qui m'a donné confiance, c'est... Je fais partie de ces gens qui sont des... comment on appelle ça déjà ? Il y a un pattern. Des underconfident overachiever. Donc, c'est-à-dire que je manque par défaut, enfin ma nature par défaut, c'est le manque de confiance en soi que je compense et où je renvoie parfois une image qui est assez strictement opposée à ça. Je crois que c'est assez fréquent. Et du coup, pour me réaliser, pour prouver que je suis compétente, je vais souvent me donner à fond. Et du coup, quand chez Blablacar, j'ai un peu passé des paliers effectivement de reconnaissance interne, externe. C'est sûr que ça m'a permis de lâcher un peu prise là-dessus et de souffler, quoi. Donc, un peu comme dans Qui veut gagner des millions, j'avais l'impression que je ne pouvais pas repasser en dessous d'un certain seuil de confiance en soi et de reconnaissance. Et ça, ça m'a vachement aidé à sauter, donc le capitaliser sur le fait que okay, je n'allais pas redémarrer de zéro, j'avais quand même acquis des compétences, j'avais une forme de reconnaissance, même si ça allait évidemment évoluer. Et donc, ça m'a aidé à sauter le pas. En revanche, c'est vrai que... Et du coup, le regard de ma famille, de mon compagnon et tout, je pense qu'ils avaient beaucoup plus confiance en mes capacités que moi-même. Donc finalement, ça a été. Mais après, c'est plus au moment de revenir et de chercher. Et en fait, de m'être sortie comme ça pendant 6 mois, je me suis dit, mais j'ai complètement disparu du radar. Et puis, bah, le monde continue à tourner, ce qui est très rassurant. Et en même temps, c'est vrai que du coup, tu as un peu une espèce d'angoisse de te dire, mais est-ce que vraiment je vais réussir à apporter une pierre à l'édifice? Est-ce que j'ai vraiment des choses à transposer, à apporter? Et puis, bah, quand tu fais un peu le bilan, quand tu commences à rencontrer des gens, à discuter, tu vois qu'il y a quand même. Il y a quand même plein de... Enfin, on développe, surtout quand on sort d'école de commerce et qu'on fait des métiers un peu généralistes comme c'était mon cas, on développe quand même des compétences qui se réemploient assez aisément dans d'autres secteurs. Et du coup, bon, j'ai eu la foi de sauter. Après, ça a été un petit peu plus dur au moment du retour parce que j'avais des petites rechutes de confiance en moi et de capacité à trouver le bon projet. Mais ça a été globalement.
D'accord. Et donc là, vous rentrez de votre voyage, vous décidez de rester à Paris ou de bouger, parce que tu nous as dit aussi que déjà pendant ton temps chez Blablacar, vous aviez commencé à prendre conscience déjà de votre impact, à changer vos modes de consommation et vos modes de vie. Du coup, comment est-ce que ça s'est passé le retour?
Bah alors, ce qui était chouette, c'est que comme on s'était extrait de notre quotidien, on avait décidé qu'on partirait de Paris. Ça, on le savait. Et donc, on est rentré à Paris en sachant que c'était temporaire. Et donc, très vite, donc moi, j'avais pas de boulot à ce moment-là. Charles lui a repris son job. Ils étaient hyper tolérants. Avant qu'on rentre, il avait déjà émis le fait qu'il aimerait bien bosser à distance. Et donc, sa boîte a accepté qui travaille à distance et qui peut chercher ça. Donc, en rentrant, on s'est mis tout de suite en quête de... Enfin, d'abord, on s'est mariés, ce qui était très chouette pour conclure ce voyage. Et ensuite, on s'est mis assez rapidement en quête de là où on avait envie de vivre. Donc, on a été passer 2-3 semaines ici et là, donc dans 3-4 villes en France. Et donc, notre choix s'est arrêté sur Nantes. Et ça faisait vraiment partie de l'équation pour nous parce que j'avais le sentiment, pour m'exprimer que pour moi, même si Charles sera sûrement d'accord pour une bonne partie de ce que je raconte, j'avais le sentiment qu'une partie du problème résidait dans la frénésie de la ville, de cette ville en particulier, de Paris. Je pense que c'est le cas de la plupart des mégalopoles, enfin des capitales européennes ou mondiales. Qui consiste à travailler énormément, à faire des gros horaires, le soir à sortir, parce qu'on connaît plein de monde, ça va vite, il se passe plein de choses, d'être rincé, de pas bien dormir, de consommer beaucoup de services, du coup de s'échapper le week-end. Et donc on s'était dit, au lieu de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant de voyager, c'est-à-dire passer 5 jours de la semaine à Paris, ou d'ailleurs 2 jours en voyage, 3 jours à Paris, et ensuite le week-end s'échapper à nouveau, parce qu'on n'en peut plus et qu'on a envie d'être à la campagne, on va plutôt... passer 5 jours là où on a envie d'être et puis revenir 1 ou 2 jours par semaine à Paris si nécessaire pour le boulot. Et donc on a fait ce choix-là et puis du coup venait avec ça tout plein d'autres choses. Parce qu'en fait quand on a fait cette forme de transition ou en tout cas quand on a eu cette prise de conscience sur les enjeux écologiques, moi je pense souvent la métaphore de la pelote de laine, quoi. Ça a commencé dans ma cuisine où je me suis dit mais qu'est-ce que je mange en fait, où vont mes déchets, ça a été un déclencheur assez fort. Quand j'ai commencé à prendre conscience de ces petits gestes qui n'allaient pas, qui ne me convenaient pas, j'ai eu l'impression ensuite de commencer à lire des choses et puis de dérouler un peu la pelote de laine et de me rendre compte que tout dans mon mode de vie était à changer si je voulais être en phase avec mes valeurs. Donc c'était vertigineux, ça m'a fait paniquer. Puis après on s'est dit bon bah on va engager le chemin, quoi. Et donc pour engager le chemin, la première brique ça a été changer d'environnement et aller vivre dans une ville qui nous correspond un petit peu mieux. Alors évidemment, c'est difficile de quitter les copains, de quitter la famille, mais comme on avait fait cette pause, ça a pas mal facilité les choses. Et ensuite, bah, du coup, on a adapté un peu tout le reste. On mange, on cuisine beaucoup maintenant, on consomme que des produits bio locaux de saison ou quasi. On a des petites rechutes, évidemment. On a un petit jardin, on commence notre potager, on parle pas mal avec nos voisins, ce qu'on faisait jamais avant. On va se promener au parc à côté de la mer. Et c'est un mode de vie qui est juste vraiment très différent, beaucoup plus ancré localement. Et c'est du coup ça qu'on cherchait.
Et alors, petite question aussi sur le choix de la ville. Comment est-ce que vous vous êtes arrêté sur Nantes comme ville?
Il y a la réponse de l'Excel et il y a la réponse intuitive. La réponse de l'Excel, c'était un mix de critères objectifs comme les précipitations, comme à quel point est-ce que la ville est verte, donc est-ce qu'il y a des espaces verts pas mal d'endroits, est-ce qu'il y a soit la mer, soit la montagne pas loin, est-ce que les gens sont sympas, est-ce que les thématiques écolo sont des choses qui résonnent localement. Donc Nantes cochait vraiment toutes ces cases-là. C'était aussi à 2 heures de Paris, ce qui nous rassurait par rapport à notre besoin d'être à Paris pour le boulot. Et puis après, bah, du coup, la réponse un peu intuitive, c'est que à la lecture de tous ces critères objectifs, et puis en passant du temps là-bas, ça a été un peu un coup de cœur, quoi. On s'est un peu reconnu dans cette ville-là, en se disant voilà, la place. Enfin, ça correspond bien à ce qu'on recherche.
Ok. Et donc là, vous choisissez de vous installer à Nantes. Et vous arrivez à Nantes et vous commencez à chercher. Enfin, toi, tu commences à chercher un travail puisque Charles, lui, a toujours son poste en remote, j'allais dire.
Ouais.
Comment ça se passe? Tu regardes où? Comment?
Ouais, alors ça, c'est du coup un peu l'absurdité du truc, mais dont je suis quand même heureuse et fière, hein, mais c'est qu'au moment où on a commencé à chercher où on allait vivre ensuite, moi, je me suis dit, surtout, contacte pas trop de boîtes parisiennes, parce que si tu contactes des boîtes parisiennes, tu vas te faire happer. Et quand je dis contacter des boîtes, c'est que j'avais envie de rejoindre, soit de me lancer dans un projet entrepreneurial, soit de lancer un projet... Soit de rejoindre un projet assez jeune, puisque j'avais le sentiment de pouvoir mettre à contribution mes compétences en développement. Et donc, je m'étais dit, regarde pas trop les boîtes parisiennes, sinon tu vas te faire happer. Et puis, en fait, j'ai commencé à tourner autour de la thématique de la transition agricole et de la transition alimentaire au sens large. Donc, du coup, de manière un peu systématique, j'ai commencé à me dire, bon, alors la production alimentaire, la logistique, la distribution, etc., etc. Donc, à découper un peu la chaîne de valeur en me disant, bon, il y a plein de problèmes à régler. A priori, c'est plutôt l'amont qui m'intéresse, la production agricole. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu tout. Et puis, il y avait un sujet qui revenait tout le temps, c'était la gestion des déchets. Alimentaire, donc avec le compostage, qui en voyage m'avait vachement, enfin, avant de partir en voyage, on s'était déjà mis à trier nos déchets alimentaires, à les apporter dans un composteur de quartier. C'était un peu galère, mais on s'était dit, bon, c'est quand même un peu le béaba de la transition individuelle sur les sujets écolo. Donc on avait commencé à le faire. En voyage, on avait vu que voilà, ça se faisait absolument partout à la campagne. Et donc en rentrant, je m'étais dit, il y a quand même une vraie thématique là-dessus, un vrai potentiel de... Parce qu'il n'y a rien en France, hein, il y a très peu de choses en France sur ce sujet-là. Et donc j'avais commencé à regarder ce qui se faisait en France. Et comme on avait visité plusieurs villes, notamment Bordeaux et Nantes, j'avais été voir les petites boîtes ou assos locales, surtout assos, qui s'attaquaient au sujet, et je me suis dit, canon, il y a vraiment un vrai truc à faire sur ce secteur. Et donc, je n'ai pas pu résister, je vais quand même contacter Alex et Kenzo, qui sont deux associés maintenant, qui avaient cofondé Les Alchimistes un an plus tôt. Et en fait, ça a été un gros coup de cœur professionnel et personnel. On s'est dit, bah, quand même, il y a des belles complémentarités entre nous, est-ce qu'on n'essaierait pas de bosser ensemble? Et au début, moi, j'y allais vraiment en disant, ouais, j'ai du temps devant moi, je peux vous filer des coups de main si vous voulez, pro bono, pourquoi pas en presta, mais moi, je m'en vais à Nantes, donc voilà, enfin, c'est juste pour découvrir ce que vous faites et vous filer un coup de main éventuellement. Et puis là, bah, Alex, qui a une force de conviction hors du commun, m'a un peu motivée en me disant, non mais on pourrait, enfin, si on bosse ensemble, c'est pour envisager des trucs un peu plus forts, il faut qu'on réfléchisse à s'associer, si on pourrait former un trio de dirigeants, etc. Et donc bah, on a décidé, malgré mon départ à Nantes, de commencer à bosser ensemble. Donc on a commencé à bosser ensemble pendant 6 mois à distance, du coup. Donc moi, je bossais depuis Nantes en faisant quelques allers-retours entre Paris et Nantes. Ça a bien marché, et donc au bout de 6 mois, on a décidé de s'associer. Et donc je les ai rejoints tous les deux. Il y avait déjà une petite équipe, mais le projet était encore assez petit. Il est d'ailleurs toujours assez petit, on a encore plein de choses à faire et à prouver. Et donc en fait, la réalité de mon quotidien aujourd'hui, c'est que je retourne à Paris, pas toutes les semaines, mais quasiment, pour bosser avec mon équipe qui est basée à Paris principalement. Et par contre, les Alchimistes, on s'est développés dans pas mal de villes en France. dans le sud, à Toulouse, Toulon, Marseille, à Lyon, à Lille, à La Réunion. Et depuis peu, en ce moment, on est en train d'ouvrir le marché nantais. Et du coup, dans la répartition des rôles, on s'est aussi dit que moi, j'allais plutôt m'occuper de ce que je savais et j'aimais bien faire, à savoir le développement du réseau national et la partie financement, qui sont des choses qui peuvent se faire, assez facilement à distance. Et après, j'ai aussi la partie structuration pour processer, pour grandir. Et ça, ça me demande un peu plus d'être à Paris, de passer du temps avec l'équipe, mais ça se passe plutôt bien. Donc, je voyage pas mal entre Paris et Nantes depuis lors, quoi. Ça fait 2 ans.
Ok, super. Et du coup, si on s'intéresse un petit peu au futur maintenant, quels sont, toi, tes projets perso, les projets même pour les alchimistes? Comment est-ce que tu perçois l'avenir?
Alors, pour ce qui est des alchimistes, pour commencer peut-être sur comment je perçois l'avenir, j'ai un peu l'impression d'être schizophrène et je pense que les médias aujourd'hui, en particulier les réseaux sociaux, ne nous aident pas là-dedans parce qu'on est un peu dans nos petites bulles, on a l'impression que tout le monde pense comme nous, il y a beaucoup de renforcement positif. Donc quand je suis dans la petite bulle, en renforcement positif, dans notre écosystème professionnel, personnel et tout, je me dis mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, il y a un vrai éveil des consciences, et puis plein d'initiatives, vraiment des choses géniales, et le chemin est enclenché, il va y avoir une forme de transition, ça va prendre du temps mais on va y arriver, et ça va être super. Et puis parfois je dézoome et j'ouvre des trucs où je lis des choses que je lis pas habituellement, et là je me dis catastrophe. Non pas que je ne lise pas habituellement, mais en tout cas voilà, plutôt des sujets plus macro ou des thématiques plus politiques et tout, et je me dis bon, en fait on en est extrêmement loin, les forces qui s'opposent sont trop puissantes, on est dans une incapacité à bouger en Europe, il y a plein de choses qui me rendent assez pessimiste, voilà, je dirais que je suis un peu schizophrène face à l'avenir. Et par contre j'ai un peu, comme j'ai eu cette phase de prise de conscience écologique et que je suis passée comme beaucoup de gens par ces phases de d'effarement, puis de colère, puis de deuil, puis de reconstruction, donc vraiment la courbe du deuil, ça fait je dirais un an maintenant que j'ai fait mon chemin, ça m'a déprimée, je me suis laissée abattre par tout ce que j'entendais, et là je me dis voilà, je fais ma part, je fais ce que je peux professionnellement, personnellement. Si ça me rend heureuse, ça irradiera, ça rayonnera, ça inspirera, j'espère, d'autres gens. Donc merci de me donner la parole pour, j'espère, pouvoir partager cette expérience. Et puis voilà, si chacun met ses compétences au profit de ces thématiques, on devrait réussir à faire quelque chose de bien. Et moi, mes compétences étaient en développement de jeunes entreprises, donc c'est là que j'ai été. Je me dis souvent que pour avoir le plus d'impact, il faut surtout faire de la politique, s'engager, etc. Et en fait, ce n'est pas ce qui me correspond le plus. Donc, je fais ma part dans ma zone à moi, et j'espère que ça inspirera des acteurs qui, eux, ont des postures peut-être de décision plus institutionnelles. Et donc, ça, c'est le cadre un peu sur comment j'entrevois le futur. Et puis, du coup, pour les alchimistes, donc là, si je zoome et que je me mets vraiment dans mon sillon, dans notre secteur, dans nos thématiques, il y a tout à construire. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 90% des déchets alimentaires en France qui partent à l'incinération ou à l'enfouissement, ce qui est une aberration écologique parce que les déchets alimentaires, c'est déjà composé à 80% d'eau. Donc, quand c'est incinéré, on brûle de l'eau, ce qui est un peu débile. Et par ailleurs, c'est gorgé de matière organique. Or, on a un peu plus de 60% des sols en France qui sont morts et qui s'agirait de régénérer s'il est encore temps de le faire. Et si on veut aller vers une transition alimentaire et agricole, agroécologique, il faut trouver des manières d'amender les sols, de nourrir les sols avec des amendements organiques. Et donc le compost, c'est ça, le compost, c'est l'amendement organique. Voilà, il y a tout à construire pour réussir à composter un maximum de déchets alimentaires. Et juste sur le pourquoi, les alchimistes, pourquoi ça me semble si important, c'est que les sols, c'est un énorme capteur de carbone. Donc quand on parle de de réduire notre empreinte carbone, bah, y a moins en émettre et il y a mieux en capter. Donc, les forêts, les océans, les sols, c'est les capteurs de carbone les plus importants. Donc, quand on tue les sols parce qu'on a une agriculture intensive, non seulement bah, pour la santé, c'est assez catastrophique, mais aussi l'équilibre carbone, c'est également catastrophique. Donc, voilà, c'est pour ça que cette thématique enfin, c'est une des raisons pour lesquelles cette thématique me touche vraiment. L'autre raison, c'est que c'est un peu comme pour moi, ça a été une des premières choses que j'ai pu faire en tant que citoyen, c'était de trier mes déchets et de réaliser ce que je pouvais faire dans ma cuisine pour faire les choses mieux. Et donc, je me dis, si on peut faire cette petite étincelle et si on peut contribuer à ce que les gens aient cette petite étincelle, bah, ça peut, pareil, avoir des répercussions, inspirer. À ouvrir d'autres thématiques et tout. Donc voilà, il y a tout à faire en France sur les déchets alimentaires, sur la sensibilisation des citoyens et des entreprises sur ces thématiques. On a bien grandi, mais on est encore tout petit. Si on veut atteindre nos objectifs, il faut qu'on composte 500 fois plus de déchets que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout à faire. Et c'est ce qu'on s'est fixé pour objectif dans les 10 prochaines années. Et ensuite, personnellement, plusieurs projets. En tout cas, il y en a un qui est fort, c'est de s'ancrer à Nantes. Et en ce qui concerne du coup mon engagement plutôt perso, on a un projet d'ouverture d'un lieu associatif de quartier. Donc ça, vraiment, c'est l'idée de créer du lien social et un peu avec deux thématiques, une thématique plutôt culturelle, musicale, donc passer des moments festifs ensemble et en même temps, deuxième thématique, éveiller un peu sur les sujets de transition écologique de manière fun et ludique. Donc en parlant de transition alimentaire notamment, puisque ça a été notre éveil, notre manière de nous éveiller à nous. Et donc on a ce projet-là et donc on est en train là de construire les briques pour lancer cet assaut. On a déjà trouvé le lieu. Et donc maintenant, il faut qu'on lui donne vie.
Mais c'est un super projet, cette idée d'association. Et c'est quelque chose que vous avez lancé, Charles et toi, ou vous êtes associé à d'autres personnes aussi?
C'est encore hyper balbutiant. En fait, le chemin... pour en arriver jusque-là, c'est que quand on est rentré de voyage, j'ai un peu raccourci l'histoire parce que sinon c'est un peu long, mais quand on est rentré de voyage, avant de me décider à rejoindre une jeune pousse pour l'aider à se développer, j'ai un peu plusieurs étapes, plusieurs moments de pérégrination où je me suis dit peut-être qu'il faut qu'on fasse un truc plus radical, qu'on aille nous aussi vivre en communauté, créer un lieu à la campagne, faire du maraîchage, etc., etc. Puis en fait, quand on a commencé à vraiment réfléchir à ça et qu'on s'est dit ok, donc ce sera un lieu plutôt à la campagne, mais qui dit être à la campagne, ça veut dire toujours être dans sa voiture, et puis on est quand même des animaux urbains, donc est-ce que ça nous ira et tout. Bref, on a du coup erré pendant 18 mois, je pense, pas 18 mois, mais pendant plusieurs mois sur cette thématique en se disant qu'est-ce qui nous correspond. Et finalement, et du coup, ce qui était assez important là-dedans, c'était de se dire... ce qui compte à fond, c'est de s'ancrer localement, d'avoir pas le besoin de s'échapper de son quotidien en permanence. Et du coup, pour ça, il faut qu'on arrive à créer du lien social, dynamiser des régions, etc. Et donc, on avait très envie de s'ancrer comme ça localement. Mais en même temps, moi, j'ai réalisé que, vu mon expérience et ce que j'aimais faire au quotidien, bah, ça ne me suffirait pas de juste tenir un lieu à la campagne, que je n'allais pas m'éclater là-dedans. Et donc, on s'est dit, en fait, gardons cette idée d'ouvrir un lieu communautaire pour le plaisir, pour à côté, et du coup que Charles continue son activité qui lui plaît, que moi je cherche une activité plus qui me plaise vraiment et qui me permet de m'épanouir professionnellement, et on garde cette association, ce projet-là comme un side, et donc là on en est vraiment, donc on a un peu réfléchi à ce qu'on voulait y faire, on sait comment ça va s'appeler le noyau, on vient d'acheter notre maison et donc on a cherché à ce que la maison en question ait une partie qui soit accessible séparément, qui nous permette du coup de créer ce lieu, et donc on en est là, et la prochaine étape, c'est de justement réunir un peu un groupe qui soit pas que nous deux, donc on a envie d'insuffler, mais que ce soit vraiment un truc du coin et qui appartienne à tous. Donc c'était hyper important que chez nous ce soit pas le même endroit que cet endroit. Donc on est en train de bah là, on est plutôt dans la logistique des travaux, etc. Mais dès qu'on va pouvoir sortir la tête du choix du parquet et autres détails logistiques, on va pouvoir se mettre un petit peu plus sur la partie plus animation, enfin communauté, d'écrire un peu le manifeste du lieu, ce qu'on a envie d'y faire et trouver les gens qui ont envie de contribuer à cette aventure et d'écrire avec eux. Donc c'est un peu le gros projet perso du moment.
Cyrielle, on arrive à la fin de cette émission et je voulais te poser une question par rapport au passé. Si tu pouvais remonter dans le temps, prendre la DeLorean et venir te parler lors de ta dernière année à HEC, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Est-ce que tu aurais des messages particuliers à te faire passer?
Oui, je pense que je me serais vraiment... Enfin, après, toujours facile de dire ça a posteriori, mais j'aurais eu envie d'avoir un peu plus confiance en moi et de plus suivre mes intuitions et d'oser aller vers les trucs qui me semblaient justes. Je n'ai pas vraiment de regrets sur la trajectoire, j'ai juste le sentiment que quand j'étais à HEC... j'ai un peu flotté, quoi, parce que je ne me retrouvais pas toujours dans l'atmosphère, dans l'atmosphère de l'école. Il y avait certains aspects auxquels j'adhérais complètement, d'autres voilà, dans lesquels je me plaisais moins. Et j'ai l'impression un peu de flotter par rapport aux objectifs un peu classiques qu'on fixe à des étudiants d'école de commerce sur les métiers qu'il faut faire, le type de secteur dans lequel il faut aller. Et donc, c'est vrai qu'à refaire, je me serais plus rapidement renseignée peut-être sur ce que c'était que le cadre, plutôt que de flotter dans le cadre, sans trop savoir quels en étaient les contours. Donc plutôt un peu plus me renseigner sur okay, qu'est-ce qu'on attend classiquement, et puis quelles sont les autres options, et suivre tes intuitions, et va plutôt vers ces options-là qui te correspondent mieux, et surtout de bien me dire qu'il y a d'autres gens qui réfléchissent un peu à ces sujets, qui ont envie de faire les choses différemment, et donc il faut avoir confiance que de l'autre côté du rideau, il se passe plein de choses, quoi. Il y a plein de gens qui pensent un peu différemment, on est un peu dans notre microcosme quand on est à l'école, il faut juste s'en sortir un peu pour réaliser que bah, il y a un milliard de manières de s'engager, il y a des personnalités, des formes d'intelligence très différentes, et que c'est important de garder le lien avec ça, et du coup de légitimer ces choix qui peuvent être un peu hors du cadre classique école de commerce. Donc voilà, oser suivre ses intuitions et faire confiance à la diversité des intelligences, je dirais.
Et est-ce que justement, tu aurais peut-être des recommandations de lecture ou de vidéos, documentaires ou autres pour insuffler ces idées et aller regarder un petit peu à l'extérieur?
Oui, il y a un milliard de choses, ça dépend un peu de ce qui nous intéresse. Pour moi, c'était là récemment, les thématiques qui m'intéressaient, c'était vraiment les thématiques environnementales. Il y a plein d'autres sujets passionnants sur le féminisme, sur la démocratie, sur le vivre ensemble. Il y a vraiment plein de choses. Sur la thématique qui m'intéressait, oui, il y a plein de choses à lire, des choses inspirantes comme des films que pas mal de gens ont vu, mais qui ont été des déclencheurs pour beaucoup, comme Demain, ou En quête de sens, qui sont des reportages hyper inspirants, plutôt basés sur l'intuition. Et puis après, de l'autre côté du spectre, il y a des écrits, des rapports, un peu plus barbants, mais qui donnent les bases, les rapports du GIEC, le Global Carbon Budget, il y a pas mal de choses qui permettent d'avoir un peu les grandes briques des problématiques et comprendre dans quel cadre, enfin, quand on décide de s'investir dans un secteur, en ce qui me concerne, c'est le compost, à l'intérieur de la thématique des déchets, à l'intérieur de la thématique de l'alimentation, à l'intérieur de la brique agroalimentaire qui elle-même n'est qu'une des briques de la transition écologique. Il y a l'habitat, il y a l'énergie, il y a les transports, et donc faut, je pense, avoir un peu ce cadre de se dire bon bah moi je zoome sur cette partie là mais voilà le cadre dans lequel je me situe. Ça m'a pas mal aidé, ouais. Donc je dirais ce genre de rapport, c'est assez chouette de leur jeter un œil, même si ça peut être un peu rébarbatif. Et après bah il y a quelques personnes assez inspirantes, même si un peu dures parfois à écouter, comme Jean-Marc Jancovici qui est un peu un des pontes sur ces thématiques en France. Et puis des choses qui découlent de ces ouvrages, comme la fresque du climat, qui est plus ou moins liée à Jean-Marc Jancovici, mais qui est un jeu sérieux qui permet de prendre conscience des imbrications entre les problématiques, les différentes problématiques environnementales. Voilà. Et puis faire du woofing aussi, j'ai trouvé ça. C'est pas forcément des lectures, mais aller voir juste d'autres gens qui ont fait des choix radicaux ou des choix juste différents de soi, ça rafraîchit un peu, quoi. Je trouve qu'on est quand même vraiment dans des microcosmes dans nos écoles et ça fait du bien de voir d'autres gens. Et faire du covoiturage, pas mal pour ça aussi, voir des gens différents de soi.
Cyrielle, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et le temps passé. Et je te souhaite vraiment bonne chance avec le développement des alchimistes. Et puis, je te dis à très bientôt.
Ça marche. Bah merci beaucoup à toi de m'avoir donné la parole. Et puis, bonne continuation.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !